Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Mathieu Orphelin, député écologiste du Maine-et-Loire.
Oui, bonjour Mathieu Orphelin.
Bonjour, merci de votre invitation.
Petit clin d'œil pour les
pour
auditeurs.
Ma cousine,
qui,
voilà, Miss pour France.
Guy Carlier.
Guy Carlier, qu'il a évoqué tout à l'heure. Je vous conseille de la réécouter en podcast, hein, cette chronique. Alors, on va évoquer le match de la primaire chez les Verts qui va se jouer en cette fin de semaine entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Avant cela, il y a le pass sanitaire aussi. Un nouveau conseil de défense ce matin. Stop ou encore. Est-ce que vous êtes favorable à un assouplissement du pass alors que la situation s'améliore nettement ou pas alors?
D'abord, la situation s'améliore nettement, mais il reste plus de 8 millions de personnes non vaccinées, notamment dans certains quartiers, dans le sud-est de la France. Également, beaucoup de personnes à risque qui ne sont pas vaccinées, dans les personnes âgées à domicile.
On 15% a un retard, de plus de 80 ans.
Voilà, on a un retard de vaccination par rapport à celles et ceux qui sont en EHPAD. Donc là, moi, j'incite vraiment le gouvernement à renforcer encore les efforts pour aller vers ces personnes-là, pour leur expliquer. Ça fait des mois que je porte l'idée d'un rendez-vous médical gratuit pour pouvoir échanger avec son médecin traitant, pas seulement au téléphone, mais voilà. Sur l'assouplissement des mesures de restriction aujourd'hui, pourquoi pas, mais en commençant par là où c'est le plus urgent, dans les écoles, le masque, les protocoles dans les écoles, c'est sûrement là où il faut assouplir en premier.
Oui. La sortie du quoi qu'il en coûte, le projet de finance est présenté ce matin au Conseil des ministres. Alors, il y a une grosse interrogation sur la maîtrise des dépenses. Le président de la Cour des comptes, ancien ministre socialiste lui-même, alerte sur les déficits. Comment vous jugez-vous la situation ?
Emmanuel Macron refait comme avait fait François Hollande lors du quinquennat précédent, c'est-à-dire met des dépenses très fortes la dernière année du quinquennat. Mmh. Alors un certain nombre, nous on a compté, on fait un petit tableau, c'est pratiquement 16 milliards d'euros de dépenses annoncées rien que le mois dernier. Des mesures en plus, à chaque jour son annonce. Alors il y a des fois où ça vient rattraper des manques et de l'argent qui aurait dû être mis au cours du quinquennat. Mais ce qui me frappe également, c'est qu'il n'y a aucune proposition de recette. Mmh. Et Emmanuel Macron reste dans son idée de dire on ne change rien. Et alors c'est facile de dépenser quand on n'a pas de recette en face. Moi je porte et je porterai dans ce projet de loi de finances un ISF climatique pour que effectivement les plus aisés puissent contribuer à l'effort national, sauf quand ils investissent dans des secteurs de la transition écologique.
Oui, donc vous, parmi les recettes, il y a ça, cet ISF climatique que vous proposez. Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Et est-ce qu'il faudrait aussi limiter certaines dépenses quand même, non?
Oui, notamment sur certains soutiens aux grandes entreprises, il faut qu'il y ait beaucoup plus de ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité, ce que refuse de faire Emmanuel Macron depuis 5 ans. Pourtant, quand on met beaucoup d'argent public dans les grandes entreprises, et tant mieux, ça a été utile pour la crise, ça aurait été très intelligent de mettre des conditions sur la transition écologique, sur le respect de critères sociaux, sur l'égalité femmes-hommes. Et Emmanuel Macron et le gouvernement se sont refusés à toute conditionnalité des aides publiques. Eh bien, c'est une erreur fondamentale.
Alors, du côté des entreprises, des conditions, et du côté, par exemple, aussi des allocations pour certaines familles dans le domaine du social, où ça explose parfois. Vous avez vu, la Seine-Saint-Denis, on est obligé de renationaliser le RSA. Non, est-ce qu'il n'y a pas aussi des efforts à faire à ce
non,
niveau-là?
Moi, je... Et d'ailleurs, le gouvernement est en train de réfléchir aux revenus d'engagement des jeunes en disant il va être très contrôlé, il va y avoir des contreparties, etc. Les jeunes qui aujourd'hui n'arrivent pas à se nourrir correctement, à vivre correctement, ils n'ont pas besoin qu'on leur impose de faire du bénévolat ou des conditions hyper strictes. Ils peuvent juste pas manger. Moi, je l'ai vu la semaine dernière, un jeune à la faculté d'Angers qui me dit je vais être obligé d'arrêter la fac, j'arrive pas à m'en sortir financièrement.
Non, mais il y a faut un truc les que aider. Je ne comprends pas. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas, Mathieu Orphelin. Il y a des milliers, des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Encore ce matin, là, on passe des annonces pour les comptables. Quelque chose ne va pas, là. Ce n'est
qu'est-ce
pas
que vous voulez dire? Est-ce que vous voulez dire les gens, ils restent au... parce qu'ils ont trop d'aide?
Je ne sais pas, mais qu'est-ce se passe-t-il?
Il n'y a une étude dans le monde, regardez la littérature, qui montre que le fait qu'il y ait des aides sociales empêche les gens de chercher du travail. C'est pas pour ça, c'est parce qu'ils sont pas formés, c'est pas parce qu'ils sont pas accompagnés, c'est parce qu'ils ont perdu confiance en eux, c'est par
vous
pour
croyez
tout un
seulement
tas de problèmes. Oui, moi je vous dis, il n'y a pas une étude dans le monde qui montre une corrélation entre le fait de toucher une aide pour pouvoir vivre et le fait de trouver, de chercher un travail. Et je crois que, bien sûr, un certain nombre de responsables politiques, dont la droite et une partie de l'REM, dit oui, les aides sociales, c'est ce qui fait que les gens sont fainéants et ne se donnent pas les moyens de trouver du travail. Non, l'insertion, c'est beaucoup plus d'enjeux que ça. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est juste permettre aux gens de vivre dignement. Il y a un Français sur cinq qui vit dans la pauvreté. On ne peut pas en rester comme ça.
Ouais. Venons-en donc à ce match en fait, entre les Verts. Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Il y a un débat ce soir sur LCI, le vote en fin de semaine. Vous soutenez Yannick Jadot. Pourquoi il est le meilleur candidat selon vous?
Oui, je le soutiens depuis le départ parce qu'il me paraît être le meilleur candidat pour l'écologie qui rassemble, l'écologie qui s'ouvre. On n'est pas dans un débat identitaire, là, où il faut voir lequel est le plus écolo ou le plus proche des militants. Non, l'enjeu, c'est la présidentielle. Pour gagner la présidentielle, je le redis, c'est 8 millions de voix qu'il va falloir faire dans les urnes en avril prochain. Et donc, il faut le candidat qui parle au plus grand nombre, qui porte bien sûr un projet ambitieux pour l'écologie.
Sandrine Rousseau, elle ne parle pas au plus grand nombre.
Moi, je trouve qu'elle est plus dans... Elle parle plus aux militantes et aux militants qui sont évidemment très importants.
Et à des gens de gauche, d'extrême-gauche, peut-être. Elle pourrait peut-être aller rassembler à la présidentielle.
Ce qui est important, c'est qu'on rassemble autour de l'écologie toutes les forces humanistes. Toute la gauche, Yannick Jadot avait pris d'ailleurs dès avril l'initiative de mettre tout le monde autour de la table parce que on peut gagner si on est tous rassemblés et la seule façon d'être rassemblés, c'est autour de l'écologie. C'est ça que porte Yannick Jadot, un vrai projet écologiste. Moi, ça fait 20 ans que je le connais, 20 ans que je le vois dans les luttes écologistes et donc je crois qu'aujourd'hui il est prêt, il est mûr pour ses fonctions présidentielles.
Est-ce que chez les militants écologistes, on ne veut pas justement une radicalité, une fermeté qui s'illustre à travers ce score de Sandrine Rousseau et peut-être d'Éric Piolle et de Delphine Bateau à un degré moindre, quoi, non ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est l'écologie, elle est radicale. Ouais. Depuis Dumont, le premier écologiste, il était radical à sa façon. L'écologie, c'est la radicalité de l'action, du changement. Maintenant, il faut effectivement que les militantes et les militantes aient bien en tête que ce qu'on choisit, c'est le ou la candidate pour la présidentielle. Et rappelez-vous, 2011, Hulot, qui parlait au plus grand nombre, Eva Joly, qui était celle qui était sans doute le plus proche du corpus idéologique.
Proche,
moi, j'étais dans l'équipe de Nicolas Hulot. Hulot. Ouais. Eva Joly a gagné très nettement.
Ouais.
Il ne faut pas qu'on refasse les mêmes erreurs qu'avant. Aujourd'hui,
c'est ce qui est en train de se reproduire.
Non, non. Moi, je crois beaucoup, et j'ai vu beaucoup hier... un vent d'optimisme en voyant beaucoup de soutien d'Éric Piolle au premier tour, dire ben voilà, on a mené une très belle campagne avec Éric Piolle, aujourd'hui on soutient Yannick Jadot pour le deuxième tour. Idem des soutiens de Delphine Bateau avec qui Yannick Jadot a plein de convergences sur le fond comme avec Éric Piolle, dire hier, eh bien oui, pour ce deuxième tour, on soutiendra Éric Jadot et ça c'est plutôt prometteur, oui, même si à la fin ce sera sans doute serré.
Oui, et sur les votes, est-ce qu'il y a eu du lantrisme de la part de certains
non,
il pourrait y avoir des gens de gauche, des socialistes qui ont peut-être
pour moi, c'est
favorisé plutôt non, Sandrine pour moi, Rousseau plutôt que Yannick Jadot, quoi, non ?
Quand vous faites une primaire ouverte, vous pouvez pas contrôler tous les votes, mais il y a un certain nombre de gens qui étaient venus voter pour nous essayer de mettre le bazar dans la primaire. Ils ont vite été détectés. Il y avait un certain nombre de précautions qui ont été prises. Non, je crois que c'est... Mais quand vous faites une primaire ouverte, il faut accepter que tout le monde puisse voter.
Si Rousseau l'emporte, vous la soutiendrez pendant la campagne ?
C'est l'engagement qui est pris par tous les candidats et les candidates. Et d'ailleurs, quand vous votez pour la... quand vous vous inscrivez pour la primaire, vous devez cocher cette case, effectivement.
Donc, voilà. Vous n'irez pas plutôt vers Anne Hidalgo ou d'autres, ou revenir vers La République En Marche
Revenir vers La République En Marche, alors que j'en suis parti depuis 3 ans, excusez-moi, mais oui, non, ça c'est complètement impossible.
Oui, Mathieu Orphelin, le phénomène Zemmour, vous avez été l'un des tout premiers à demander le décompte de ses prises de parole. Est-ce que vous n'avez pas contribué quelque part, à travers ça, à le populariser davantage?
Oh non, je crois qu'il n'avait pas besoin de moi pour se populariser.
Ah non, mais il monte dans les sondages de plus en plus en l'espace de 10 jours.
Il prend tout le monde pour des imbéciles. Il voulait lancer sa pré-campagne électorale en bénéficiant d'une heure chaque jour sur CNews. Et en disant à tout le monde, non, je ne suis pas encore candidat. Non, mais arrêtez. Donc, les mêmes règles pour tout le monde. Éric Zemmour ne respectait pas les règles. C'est pour ça que j'ai saisi le CSA. Mais c'est son habitude de ne pas respecter les règles. Par ses propos racistes, par ses propos homophobes,
raciste,
encore comme hier.
Il a été condamné, donc
c'est des propos racistes.
Bah,
il faut le dire, non, mais personne lui en parle jamais. Un certain nombre de...
Il
est mis en accusation.
Il dit des choses, ça dépend
des sujets.
Oui, mais pourquoi
parce qu'il
alors
il parle toujours, il essaye de nous faire croire, c'est là aussi où on nous prend pour des imbéciles, qu'il y a un problème en France et que c'est le problème unique, c'est les Arabes, c'est l'immigration, c'est ça son discours. Regardez-le hier sur le changement climatique, interrogé le matin sur CNews, il est pitoyable, il est climato-sceptique, il dit « Oh, le changement climatique, moi, oui, sans doute, ça existe. » Non mais c'est une honte, comment on peut aller à la présidentielle en maîtrisant aussi peu les vrais sujets, le climat, l'économie, la solidarité.
Il maîtrise en revanche l'histoire, l'immigration. Il a raison quand même de soulever ce point.
Non mais attendez, on lui déroule le tapis rouge. On lui déroule le tapis rouge. Ça fait des semaines qu'on ne parle que de lui. Et je trouve que, voilà, enfin, aujourd'hui, on commence à lui demander, mais attendez, vous voulez être candidat à la présidentielle, mais c'est quoi vos idées, à part de déverser votre haine en permanence sur tous les plateaux de télé et de radio.
De fait, Mathieu Orphelin, vous l'avez installé dans le champ politique, là, maintenant.
Ah non, mais attendez... Alors, non,
si.
Je suis pas d'accord avec.
Il n'est pas encore candidat, mais en même temps, il est invité. Et demain, il sera en débat face à Jean-Luc Mélenchon. Le président de la France Insoumise, d'ailleurs, a raison d'accepter ou pas ce débat?
C'est difficile de laisser Zemmour sans contradiction, mais en même temps, c'est lui faire honneur. Alors qu'il continue à nous faire son sketch, à nous prendre pour des cons, en disant « je suis pas encore candidat, ah là là, on m'a forcé à arrêter mon émission, mais voilà ». Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut qu'il respecte les règles, s'il est candidat, il assume, et il arrête de minauder.
En tout cas, il est maintenant invité dans les médias, et puis il est interrogé en tant que tel, en tant que futur potentiel candidat.
Il était temps, parce qu'il respectait pas les règles du CSA, sur les comptes de campagne.
Mais alors, donc, il faut débattre avec lui. Vous êtes prêt à débattre avec lui?
Écoutez, il faut d'abord qu'il se déclare candidat, moi, je pense.
Vous avez insisté pour qu'il soit décompté en tant que politique, donc il faut être logique, Mathieu Orphelin.
Mais je crois qu'il a besoin de contradictions. Il a besoin qu'on le mette face à, effectivement, sa haine permanente, sa haine de l'autre, ses discours insupportables, son comportement misogyne, homophobe, encore hier matin, insultant les militants LGBT qui font des interventions dans les collèges ou les lycées. Hier, niant le changement climatique, mais comment on peut avoir, comment
relativisant,
on peut être...
relativisant.
Non mais relativisant, vous êtes gentil, mais il dit le changement climatique, oui, peut-être ça existe, c'est pas relativisé, c'est le plus grand enjeu aujourd'hui de notre société, et franchement, il fait honte. Éric Zemmour, il fait honte à la France.
Mathieu Orphelin, un dernier mot qui peut faire honte aussi, c'est quand même, il y a des fusillades en permanence en raison des trafics de drogue. Nouvelle fusillade hier soir à Marseille, on a confiné des enfants dans une école hier à Cavaillon, les services sociaux ferment dans un quartier. Que faut-il faire? Vous, je sais que vous prônez toujours la légalisation du cannabis, mais certains estiment que c'est dangereux aussi pour la santé.
En tout cas, il y a une vraie question autour de la légalisation du cannabis.
Et des trafics en drogue.
Mais c'est déjà sur cette question une vraie question, parce qu'on est un des pays d'Europe les plus consommateurs, et pourtant où il y a le plus de trafic. Donc, là, il y a un vrai sujet. On est face à des sujets difficiles, et y compris dans toutes les villes dont on parle moins, mais à Angers, aujourd'hui, où je suis élu, il y a des quartiers où c'est compliqué à cause de ça. Et donc, il faut renforcer les moyens de la police, renforcer les actions de prévention, renforcer les actions avec toutes les associations et les habitants des quartiers. Et puis,
des habitants qui ont envie de déménager, et des associations qui veulent que des fois, plier bagages.
Oui, parce que des fois, la vie devient quasiment insupportable. Et donc, plus de présence, plus de liens, plus d'action, et puis ce sujet de la légalisation du cannabis qui se pose, qui n'est pas la solution miracle, mais c'est une question qui se pose. Il faut qu'on arrive limiter les trafics qui rendent, outre les problèmes de santé que ça pose, effectivement la vie invivable à de nombreuses personnes.
Merci Mathieu Orphelin, député écologiste du Maine-et-Loire, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.
Il est 8h31, on revient dans un instant.